Imaginez un instant regarder un mot écrit sur une page. Un mot vraiment très simple de la vie de tous les jours, genre le mot oiseau.
Ah oui, le fameux O-I-S-E-A-U-X. 7 lettres en tout.
Exactement. 7 lettres qui s'alignent devant vos yeux. Et pourtant, à l'oral, ben, la moitié de ce mot disparaît. C'est littéralement juste un décor, en fait.
C'est vrai que c'est assez déroutant.
Pour quiconque essaye d'apprendre cette langue, c'est un mystère absolu. Pourquoi s'encombrer de toutes ces lettres si c'est pour n'en prononcer que la moitié et de manière totalement inattendue? Bon, décortiquons ça, c'est le point de départ de notre plongée au cœur de nos sources aujourd'hui.
Tout à fait.
On se base sur un document de référence qui est sobrement intitulé Sons de la langue française.pdf. C'est un guide sonore technique, pensé vraiment pour les débutants, qui décortique la prononciation exacte du français de France.
Ouais, c'est un outil hyper précieux.
Et notre mission aujourd'hui, elle va bien au-delà de la simple lecture de ce manuel. Et l'idée, c'est de comprendre l'ingénierie physique derrière ces sons, et surtout de pratiquer.
C'est une excellente porte d'entrée parce que maîtriser une langue, particulièrement au niveau de l'accent et de la prononciation, bah ça n'a presque rien à voir avec l'intellect ou la grammaire.
Non.
Non, c'est de l'anatomie pure. Ce document met en lumière une réalité qu'on ignore souvent. Parler français, c'est imposer à son appareil vocal une gymnastique musculaire totalement inédite.
Ah, une vraie séance de sport pour le visage, quoi.
C'est ça. Le guide prend d'ailleurs soin de mentionner spécifiquement les lusophones, donc les personnes parlant portugais.
C'est marrant comme précision, ça.
Ben, c'est un choix très pertinent. Passer d'une langue romane à une autre révèle à quel point notre cerveau a codé des mouvements automatiques. Les lèvres, la langue, le voile du palais, tout ça, ça a ses petites habitudes.
Ouais, on ne s'en rend même plus compte, en fait.
Exactement. Et apprendre les sons du français demande de briser ces automatismes. Il faut sculpter de nouvelles postures et forcer des muscles qui n'ont jamais travaillé de cette façon à se coordonner.
Du coup, c'est de la reprogrammation neuromusculaire, en somme.
Absolument.
Et comme pour tout entraînement physique, bah, il faut pratiquer. Donc, tout au long de cette analyse, l'idée, c'est de transformer la théorie en pratique.
Je suis prêt.
Alors, voilà la règle du jeu pour ceux qui nous écoutent. Quand on abordera les mots d'exemple de notre source, je vais les prononcer et au lieu de laisser un blanc gênant, je vais décrire exactement ce qui se passe physiquement dans ma bouche.
D'accord.
L'objectif pour quiconque a l'envie d'essayer en écoutant, c'est de calquer ses propres mouvements sur cette description. Vous répétez le mot dans la foulée et surtout n'hésitez pas à exagérer la posture. Il faut vraiment ressentir l'étirement ou la contraction.
C'est la meilleure méthode.
Et curieusement, notre guide ne commence pas par nous apprendre à faire du bruit. Il commence par nous apprendre à nous taire. C'est la maîtrise du silence.
Oui, c'est paradoxal, mais la première étape pour sonner français, c'est l'art de la suppression.
L'art de la suppression, j'aime bien l'expression.
Le document établit une règle fondamentale d'entrée de jeu. L'écrasante majorité des consonnes, situées à la toute fin d'un mot, n'ont aucune existence sonore. Elles sont là, mais on les ignore.
En fait, je vois ces lettres finales comme des fantômes grammaticaux. Elles hantent la page, quoi.
C'est une belle image.
Et si on y réfléchit une seconde, c'est une question d'histoire pure. Au Moyen Âge, les moines copistes qui écrivaient les manuscrits étaient payés à la ligne, ou alors ils voulaient montrer l'origine latine des mots.
Oui, le fameux poids de l'étymologie.
Voilà, exact. Donc, ils rajoutaient des lettres silencieuses partout pour faire le lien avec le latin, ou juste pour que le mot prenne plus de place sur le parchemin, histoire d'être mieux payé.
C'est fou, non ?
Le résultat, des siècles plus tard, c'est qu'on se retrouve avec un mot comme « petit », P-E-T-I-T. L'instinct pour un étranger, c'est de percuter ce T final.
Et c'est l'erreur classique. La transcription phonétique, donc ce que l'oreille perçoit réellement, exige que l'air soit coupé net sur la voyelle I. La consonne finale doit disparaître totalement.
Faisons le test. Le mot est « petit ». On le prononce et on laisse un temps. « Petit ». On sent bien que le souffle s'arrête instantanément, non ?
Tout à fait. Il n'y a pas la moindre vibration de la langue derrière les dents pour faire un T. Le son s'éteint dans le vide.
Je le refais, essayez de le calquer. Petit. C'est une coupure très abrupte, en fait. Et la source nous donne un autre exemple fascinant avec les pluriels. Le mot lunettes. L-U-N-E-T-T-E-S. Ce S à la fin, c'est un pur concept visuel.
C'est ça, c'est un marqueur grammatical silencieux. Il informe l'œil qu'il y a plusieurs objets, mais la bouche, elle, l'ignore complètement.
Elle s'en fiche royalement.
À l'oral, que ce soit au singulier ou au pluriel, le mot s'arrête sur le son de la consonne précédente, donc le T.
Essayons de ressentir cette absence ensemble. Le mot est lunette. Lunette. La langue vient bien frapper le palais pour le T final. mais l'air le siffle absolument pas pour le S. Lunette.
C'est parfait.
Mais attendez, il y a forcément un piège. Le français est mondialement connu pour ses exceptions illogiques. Hein. Ces fantômes ne peuvent pas toujours rester bien sagement silencieux.
Ben non. Et c'est là que l'apprentissage se complique. Le guide affiche d'ailleurs un énorme symbole d'attention, vraiment un gros panneau, pour illustrer une exception majeure.
Je sens que ça va être tordu.
Prenons le mot « sportif ». S-P-O-R-T-I-F. Selon la règle d'or qu'on vient d'établir, ce F devrait sombrer dans l'oubli.
Logiquement, oui. L'air devrait se couper sur le I. Sportikova.
Exactement. Et pourtant, ici, le F s'exprime pleinement, avec un souffle très net sur la lèvre inférieure.
L'exception qui confirme la règle et qui rend fou tout le monde, du coup. On y va pour le mot sportif. Sportif. On sent très bien la lèvre du bas venir frotter contre les dents du haut pour laisser échapper l'air, non ? Sportif.
Ouais, on l'entend très clairement.
C'est presque de la cruauté linguistique en ré. Pourquoi créer une règle si c'est pour la briser l'instant d'après ?
Ce qui est fascinant ici, c'est que d'un point de vue cognitif, cette imprévisibilité a une fonction. Elle empêche le cerveau de fonctionner en pilote automatique.
Ah, pas bête !
L'apprentissage algorithmique, où l'on applique une bête règle mathématique à chaque situation, bah ça ne fonctionne pas ici. Il faut une attention constante aux détails, ce qui force une immersion beaucoup plus profonde dans la mécanique de la langue.
C'est une belle façon de voir les choses. Bon, une fois qu'on a purgé ces bruits parasites en fin de mot, que fait-on de l'air qui reste ? C'est ce qui nous amène à la création des voyelles.
La fameuse chorégraphie des lèvres.
Et la source démarre avec une combinaison de lettres très courante, le O suivi du I.
La graphie O-I. Le manuel est très direct là-dessus. Ces deux lettres fusionnent pour produire le son OUA.
OUA.
Pour rassurer l'apprenant, le document fait un parallèle astucieux avec l'anglais, en expliquant que c'est une dynamique très similaire au son « oua » anglophone, comme dans « water ».
D'accord.
Sur le plan phonatoire, c'est un mouvement rapide. La mâchoire s'abaisse d'un coup et les lèvres s'écartent brusquement.
Pratiquons cette petite chorégraphie. Le guide propose le mot « moi », tiré de la phrase d'exemple « moi, je suis là ». Alors, on y va. « Moi ».
On sent littéralement l'ouverture rapide de la bouche comme un petit ressort qui se détend. Moi.
Le mouvement est très dynamique.
Et le deuxième exemple, parfois, de la phrase « Parfois il pleut à Paris ». On le tente ? Parfois. La mâchoire tombe vraiment sur la fin. Parfois. C'est un mouvement assez ample, en fait.
C'est ample, oui. Mais nous arrivons maintenant sur un terrain beaucoup plus microscopique. Le document aborde ensuite le grand duel des sons « E ».
C'est là que ça devient vraiment intéressant. La distinction entre le E fermé et le E ouvert. Alors ça, c'est un véritable casse-tête pour énormément de non-francophones.
Oh que oui. Sur le papier, un E reste un E, avec juste un petit trait incliné dans un sens ou dans l'autre. L'accent aigu ou grave. Mais notre manuel est intransigeant. Il sépare très rigoureusement les deux. Comment est-ce qu'on peut expliquer physiquement une différence qui échappe à tant de monde ?
Tout se joue sur la tension musculaire et l'espace millimétrique dans la cavité buccale. Examinons le « e » fermé d'abord. On le trouve avec l'accent aigu, le « e ».
Ok.
Le guide le décrit comme un son clair et tendu. Physiquement, la langue est poussée très en avant. Elle est presque collée au palais. Et les coins des lèvres sont étirés.
Un peu comme un grand sourire.
C'est ça. C'est presque la posture d'un sourire crispé. La bouche ne s'ouvre pratiquement pas. À l'inverse, pour le son ouvert, celui qui s'écrit avec un accent grave, le « e », ou avec des combinaisons comme « a », I ou EI.
La mâchoire se relâche, c'est ça.
Exactement. Le document le précise formellement. La bouche s'ouvre davantage, la mâchoire descend d'un cran, la tension extrême du sourire crispé disparaît. C'est subtil, mais c'est absolu.
C'est dingue.
Dans cette langue, confondre un son tendu et un son relâché peut complètement changer le sens d'une phrase.
C'est incroyable de se dire que le sens d'un mot tient à un millimètre d'ouverture de la mâchoire, quoi.
Et pourtant, c'est le cas.
Pour bien saisir cette différence, le guide propose une répétition comparative. Commençons par les sons fermés. Il faut vraiment crisper les lèvres, presque fermer la bouche dans un petit sourire forcé. Le mot est « été ». Été. Vous sentez ? La langue est très haute, très proche des dents.
Très tendue.
On continue avec un autre fermé. Le mot clé ?
Clé.
C'est très tendu aussi. Maintenant, on relâche la mâchoire, on ouvre un peu plus pour le son ouvert. Le mot est père.
Père. Sentez comme l'air a plus de place pour circuler.
La différence est flagrante quand on le fait à la suite.
Grave.
Un autre mot ouvert, portugais.
Portugais.
La faim est complètement relâchée. Et enfin, 16.
16. La mâchoire est nettement plus basse que pour le mot-clé tout à l'heure.
Parfaitement exécuté. Et cette manipulation de l'espace buccal devient encore plus extrême avec les deux sons suivants, ceux qui exigent un arrondi absolu des lèvres.
On quitte l'étirement pour entrer dans la géométrie pure, là.
C'est le terme.
Selon notre source, le son O, qui s'écrit souvent avec AU ou EAU, exige que les lèvres forment un cercle parfait.
C'est un verrouillage.
Verrouillage, c'est le mot exact. Contrairement à des langues comme l'anglais, où le son O glisse souvent et s'ouvre vers la fin, formant une sorte de AO,
ouais, un truc qui traîne.
Le son français traité ici est statique. Il reste verrouillé dans ce cercle parfait du tout début à la toute fin de l'émission sonore.
Expérimentons ce verrouillage. Il faut préparer ses lèvres en forme de cercle strict avant même de sortir le son. Le mot est jaune. Jaune. Le cercle ne bouge pas d'un millimètre.
C'est ça.
Un autre mot du guide. Beau. Beau. C'est presque une posture de statue. On fige complètement le visage.
Et alors, pour le son OU, qui s'écrit OU, l'effort physique monte encore d'un cran.
Ah oui, le fameux OU.
La source offre ici un point de repère inestimable pour les lusophones. Elle indique que ce son est très semblable au U de mots portugais comme tout doux.
Ah, hyper pratique pour eux.
Oui. Mais pour s'assurer que la mécanique corporelle est exacte pour tout le monde, le guide utilise une analogie visuelle imparable. Il faut projeter les lèvres en avant.
J'adore cette image dans le manuel. Ils disent « comme pour souffler une bougie ».
Très parlant.
C'est tellement concret. On ne peut pas juste arrondir les lèvres. Il faut vraiment les pousser vers l'extérieur, loin des dents. Comme si on voulait atteindre la flamme du gâteau d'anniversaire. Quoi.
Fallait chercher cette flamme.
Essayons de souffler cette bougie ensemble. Le mot est « fou ». Fou. Les lèvres sont projetées au maximum. Un autre exemple, « vous ». Vous, c'est un mouvement musculaire très prononcé. On le sent presque dans les joues.
Si on prend un peu de recul sur ce qu'on vient de faire, on réalise que parler cette langue demande une mobilisation faciale épuisante pour un novice.
C'est clair.
On est passé de l'arrêt brutal du souffle à l'étirement crispé, au relâchement, pour finir sur une projection labiale extrême.
Et le pire, c'est qu'on a exploré que la surface, ou plutôt que la bouche, en fait.
Oui, il manque un gros morceau.
Le document nous fait ensuite basculer dans une toute autre dimension, une sorte de chambre secrète de la phonétique française, l'utilisation de la cavité nasale.
Les fameuses voyelles nasales, la bête noire de beaucoup d'étudiants.
Oh oui.
Pour comprendre comment elles fonctionnent, on peut imaginer l'appareil vocal comme un violoncelle. La bouche, c'est la caisse de résonance principale. Mais pour ces sons spécifiques, on ouvre une caisse de résonance supplémentaire, le nez. L'air venant des poumons est divisé en deux courants simultanés.
Je dois avouer un réflexe de survie basique quand je lis un texte. Quand je vois une voyelle suivie d'un N ou d'un M, ben mon cerveau me hurle de prononcer cette consonne.
C'est naturel.
Je veux faire toucher ma langue au palais pour faire ce bruit. C'est viscéral, instinctif.
Et c'est exactement le piège tendu par l'orthographe. La source est catégorique là-dessus. Il y a même une rubrique « Conseil » bien encadrée dans le PDF. On ne prononce jamais le N ou le M séparément.
Jamais, hein.
C'est une fusion totale. En réalité, le N écrit n'est qu'un interrupteur visuel. Il indique à votre cerveau qu'il faut abaisser le voile du palais.
Attendez, le voile du palais?
Oui, cette petite partie molle, tout au fond de la gorge, juste avant la luette.
Ah, ok, je visualise.
Donc on l'abaisse pour laisser l'air s'engouffrer dans le nez. Cela crée une seule voyelle résonante, sans aucune articulation de consonne. La langue reste en bas.
C'est un détournement de plomberie interne, en fait. On dévie l'air. Travaillons d'abord le son qui s'écrit avec un A ou un E suivi d'un N, le son « en ». Ça résonne profondément. Le mot du guide est « sans », S-A-N-S.
N'oubliez pas le S muet à la fin.
Bonne remarque. L'idée est d'oublier la consonne « n », de bloquer la langue en bas et de faire vibrer l'arrière du nez. On essaye ? « Sans ». On sent très bien la vibration dans les fosses nasales, là au milieu du visage.
Absolument.
Le mot « maman ».« Maman », c'est un son qui vient de profond. Et le chiffre 30, 30. La langue ne bouge jamais pour chercher à faire un « n ». Elle se lève juste à la fin pour le « t » final.
La mécanique de déviation de l'air est rigoureusement identique pour le son nasal suivant qui s'écrit avec un « i » suivi d'un « n » ou « a-i-n », le son « 1 ».
D'accord.
La seule différence, c'est la forme de la bouche. Elle est un peu plus étirée, plus proche du sourire crispé dont on parlait tout à l'heure, mais la résonance reste nasale.
Un sourire résonnant, en quelque sorte. Le manuel propose le mot « juin », toujours sans faire sonner de haine à la fin. On étire un peu les lèvres. « Juin ». On sent que ça vibre un peu plus haut dans le visage, vers les pommettes, non ?
Oui, la résonance monte légèrement à cause de la forme de la bouche.
Le mot « main ». Main, c'est un exercice de contrôle de l'air qui est fascinant.
Totalement.
Mais parmi toutes ces fusions et ces déviations, la source nous réserve ce qui ressemble à un véritable bug dans la matrice.
Ah !
Le son qui s'écrit « EU » ou « OEU ».
Plus complexe de ce document. La source souligne d'ailleurs que ce son n'existe pas du tout en portugais.
C'est un ovni phonétique pour eux.
Et quand on lit les instructions physiques pour le produire, on comprend pourquoi il est si difficile à appréhender. Les consignes semblent en contradiction totale.
Attendez, je lis texto le manuel. Les lèvres s'arrondissent comme pour dire « o », mais on prononce « e ». Physiologiquement, ça demande au cerveau d'envoyer deux signaux conflictuels.
C'est le grand écart.
On doit préparer la devanture du visage, donc les lèvres, pour un son parfaitement arrondi, un « o » statique. Et en même temps, on force les cordes vocales et la gorge à émettre un son étiré, un « e ». C'est une torsion.
C'est précisément ce conflit musculaire qui génère cette fréquence unique, le son « e ». Sur le plan neurologique, le cerveau a l'habitude d'associer des mouvements cohérents. Des lèvres arrondies signifient généralement un espace arrière spécifique.
C'est logique.
Ici, on scinde ce réflexe en deux. On filtre un son guttural et ouvert à travers un cercle labial serré.
Bon, accrochons-nous pour essayer ça. L'astuce est de figer ses lèvres en forme de O et de penser très fort à la lettre E. Le mot est heure. Heure. On sent presque un blocage dans la gorge, un truc qui force.
Le conflit en action.
Le mot œuf. Œuf. C'est super difficile de ne pas laisser les lèvres s'étirer en disant le « e » en fait. Faut vraiment les maintenir en cercle. Œuf. C'est une vraie lutte interne.
Et cette lutte nous prépare parfaitement à la dernière section de notre manuel. Si ce son était un bug, les trois derniers sons abordés sont considérés comme des épreuves de force absolue.
Les fameux boss de fin.
Le document les catégorise d'ailleurs à part, sous l'appellation « sons spéciaux ».
Ce sont les sons qui trahissent instantanément un locuteur étranger. Ceux qui demandent des contorsions inédites qu'on n'a jamais faites de sa vie.
Cela soulève une question importante, justement. Comment le corps s'adapte-t-il à des sons qui n'existent pas dans sa langue maternelle ?
Il improvise avec ce qu'il a.
Ce qui nous ramène à la notion de mémoire musculaire. Le corps doit inventer un nouveau chemin. La source identifie trois défis majeurs. Le premier, c'est le mythique air français.
Ah, ce fameux air, le cauchemar mondial. Mais la source démystifie la chose avec une grande simplicité.
Comment ça ?
Elle précise bien qu'il se forme au fond de la gorge. Oubliez la langue, qui roule frénétiquement sur les dents de devant, ça n'a rien à voir avec le R espagnol ou italien.
Surtout pas.
C'est un frottement, une petite friction douce contre le palais mou. Le mot exemple est roulotte. On essaye roulotte. On sent juste un léger raclement tout au fond, comme un petit moteur qui démarre doucement. Roulotte. C'est presque délicat, en fait.
Le deuxième son spécial est celui représenté par les lettres G et N, le son nye. Ici, le document construit un pont immédiat et très utile avec le portugais, en indiquant que c'est l'équivalent parfait de la graphie NH.
Encore un clin d'œil aux lusophones.
Oui, la technique demande d'aplatir toute la surface de la langue contre le palais, comme une ventouse, pendant que l'air est dévié par le nez. C'est un son mouillé, très particulier.
L'image de la ventouse est parfaite pour s'imaginer le truc. Pratiquons cette langue collée. Le mot est cigogne. Cigogne. Le milieu de la langue fait vraiment tout le travail. Elle s'écrase en haut. Cigogne.
C'est un bon appui.
Et pour finir, nous arrivons au roi incontesté de la difficulté phonétique, le fameux son U français.
C'est l'épreuve ultime. Car elle repose sur le même type de paradoxe neurologique que le son O, E, U tout à l'heure.
Le bug dans la matrice, le retour.
Dans la majorité des langues, c'est un package deal neurologique. Si on projette les lèvres en avant pour faire un cercle, la langue recule naturellement au fond de la bouche. C'est complètement mécanique.
Ok, le corps compense.
Le manuel est limpide sur la recette du U français. Il exige de garder les lèvres très arrondies, projetées en avant, tout en forçant la langue à rester pointée vers l'avant, presque contre les dents inférieures.
Attendez, quoi ?
Le français demande de briser un réflexe anatomique profondément ancré. C'est pour ça que c'est si épuisant pour un anglophone, par exemple, qui va naturellement dire « ou » à la place.
Lèvres poussées en avant, langue coincée derrière les dents du bas, c'est une tension maximale. Faisons cet effort pour clôturer la pratique avec un mot que tout le monde connaît. Salut.
Salut. Il faut vraiment lutter pour empêcher la langue de reculer au fond de la bouche. Salut.
C'est un véritable bras de fer musculaire dans la bouche.
J'ai des crampes rien que d'y penser.
Mais à chaque fois qu'un apprenant mène ce bras de fer et gagne, il crée de nouvelles autoroutes neuronales. C'est un effort colossal de coordination au début, puis ça devient naturel.
Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? En refermant ce document, en ayant décortiqué cette véritable ingénierie corporelle, une évidence s'impose. Prononcer les sons du français tels qu'ils sont listés ici, ce n'est pas un bête exercice de mémorisation de lettres capricieuses ou de règles historiques obscures.
Non, c'est beaucoup plus organique.
C'est apprendre à jouer d'un nouvel instrument de musique, son propre crâne.
C'est exactement ça.
Chaque voyelle nasale, chaque arrondi des lèvres, chaque coupure de souffle exige une configuration architecturale très précise de la mâchoire, de la langue et du voile du palais. Les silences, ces fantômes grammaticaux qui hantent les fins de mots, ce sont des silences actifs, des arrêts techniques essentiels au rythme.
C'est la réalité physique de la linguistique. Comprendre intellectuellement qu'il faut projeter les lèvres ou que le N écrit sert juste à abaisser le voile du palais, c'est bien, c'est un bon début.
Ouais, la théorie.
Mais la connaissance théorique n'a de valeur que si elle se transforme en mémoire musculaire. Le fait de répéter ces sons, d'avoir pris le temps de ressentir les vibrations dans le nez ou la tension dans la mâchoire, ça modifie littéralement les connexions du cerveau. Quiconque fait cet effort s'approprie la matière physique de la langue.
Ce qui amène une réflexion assez inattendue pour conclure cette exploration. Si l'apprentissage d'une langue exige d'utiliser les muscles de son visage d'une manière totalement nouvelle,
comme crisper les lèvres en un sourire tendu,
voilà, ou projeter la bouche en avant pour souffler une bougie invisible, réveiller des zones du nez et de la gorge inutilisées, est-ce que cela va au-delà de la simple phonétique en fait?
C'est une excellente question.
Sachant à quel point la musculature faciale est intimement liée à l'expression de nos émotions, est-ce que le fait d'adopter ces nouvelles postures modifie la manière dont on ressent ou on exprime les choses? Adopte-t-on, physiologiquement parlant, une posture psychologique différente, une nouvelle personnalité subtilement altérée, quand on parvient enfin à articuler un parfait salut ou à maîtriser la tension d'un nom?
C'est le fameux mythe de la personnalité bilingue, vu sous un angle purement anatomique. C'est fascinant.
C'est une perspective étonnante à garder à l'esprit la prochaine fois qu'on se retrouve face à un miroir en train de tordre sa mâchoire pour sortir une voyelle étrangère.
Tout à fait.
La mécanique du langage est bien plus qu'une affaire de communication, c'est une reprogrammation du corps. À bientôt pour une autre plongée au cœur de nos sources.